Chapitre 2. Un tapis luxueux, des rideaux de soie rouge aux fenêtres, des tables de palissandre, deux corps de bibliothèque remplis de très beaux livres et quelques vases de porcelaine avec des fleurs artificielles, une gravure représentant la mort du général Wolfe à la bataille des Québec, telles étaient les magnificences étalées dans la principale pièce de la maison de Barton. Quoi qu'en pût penser Charles, c'était le nec plus ultra du luxe réalisé jusqu'alors dans ces parages, et les gens d'imagination vive qui avaient eu le bonheur d'admirer cette installation la considéraient comme une reproduction très satisfaisante des splendeurs de Paris et de Londres. Assise sur un fauteuil de dame à rouge et vêtue d'une belle robe de soie avec des manches et un col de dentelle, Lucie n'était plus ni sauvage ni ridicule, et Charles ne put s'empêcher d'être frappé du charme de cette jeune fille. À côté d'elle se tenait un monsieur extrêmement maigre, à physionomie grave et maladive, mais d'une distinction si saisissante que le jeune Parisien n'en fut guère moins étonné que des perfections nouvelles qu'il découvrait en Lucie. Cette figure austère, ce front dénudé, cette apparence ravagée lui furent un spectacle inattendu. Il eut l'instinct qu'il se trouvait en présence d'un être aussi dépaysé que lui dans ses latitudes, et cette sensation fut accompagnée d'une antipathie subite et d'un mouvement d'aversion bien senti. Ce personnage singulier était le maître d'école. Comme Cabert n'en sut jamais plus long sur son compte et n'eut pas d'autre nom à lui donner que celui de Monsieur John, il faut, pour l'intelligence parfaite de ce qui se passa ensuite, raconter ce que M. John était véritablement. Il se nommait Sir Hector Latimer et dans sa jeunesse avait occupé un emploi de quelque importance dans le service civil de la Compagnie des Indes, présidence de Madras. On sait que beaucoup de jeunes demoiselles anglaises, sans fortune, vont dans ces pays avec l'intention avouée d'y chercher des maris. Sir Hector fit, dans un bal donné par le 104e régiment de la Reine, la connaissance de Miss Geraldine Lead, en devint amoureux et l'épousa. Un an après, et comme sa passion allait toujours croissant, il trouva un soir, sur la table de son cabinet, une lettre l'avertissant que sa femme, n'étant pas parvenue à l'aimer malgré d'héroïques efforts, s'était décidée à réclamer l'appui de M. Henry Hitton du 11e régiment des fusillés et était partie avec lui pour l'Angleterre. Lady Geraldine terminait ce document, écrit de sa propre main et signé de son nom de fille, par l'assurance qu'elle conserverait toujours de la gratitude pour les bons soins de son mari, dont elle reconnaissait n'avoir jamais eu à se plaindre. Sir Hector donna sa démission, revint à Londres, et se mit à jouer et à boire. Il vécut avec des grooms et des gens de la pire espèce, et il prenait le grand chemin de se ruiner et peut-être de finir devant quelque cour de justice, quand une nuit où il traversait le Strand, parfaitement ivre, le hasard lui fit rencontrer une voiture dans laquelle il aperçut sa femme avec l'officier qui la lui avait enlevée. Cette vue le dégrisa complètement et la réflexion qu'il fit fut celle-ci. Au cas où elle m'a vu et reconnu, elle a contemplé un être encore plus dégradé qu'elle-même et je n'ai rien à lui reprocher. Quelques jours après, il fit trois parts de sa fortune. Deux furent remises en son nom à ses sœurs, la troisième, comprenant une rente de 50 livres, dut être payée à un notaire de Saint-Jean à Terre-Neuve pour une destination inconnue. Lui-même se retira aux environs de la baie des Îles, où il s'était rappelé être venu chasser dans sa jeunesse. Cherchant un moyen aussi humble, aussi abaissé que possible, d'expier ses fautes et celles des autres, il se fit maître d'école sous le nom de M. John et rendit de grands services à la population abandonnée de chasseurs et de pêcheurs établie dans cette contrée. Il vivait du travail de ses mains autant qu'il le pouvait et sur les 50 livres que le notaire lui transmettait secrètement, il faisait du bien en se cachant de son mieux. En somme, ce recteur Latimer, protestant, rendait parfaitement témoignage, sans y songer, que l'esprit d'ascétisme et de rude pénitence est profondément empreint dans certaines âmes anglaises, quel que soit leur culte. C'était l'homme qui avait déplu tout d'abord à Charles Cabert, et on ne peut là qu'admirer le tact sûr des divers tempéraments. On passa dans la salle à manger et on se mit à table. La beauté de Lucie préoccupait Cabert de plus en plus. Il était l'objet des attentions de la jeune fille, et cela l'enivrait. Monsieur John soufflait mot. George Barton parlait politique. « À quel parti appartenez-vous » demanda-t-il brusquement à son hôte. « Bon, je vous avouerai, répondit celui-ci, que je n'ai pas beaucoup d'opinion. Je laisse ce luxe à ceux qui croient à quelque chose. En général, je fuis des exagérations et je me borne à souhaiter le progrès et le développement du bien-être matériel. En somme, je penche pour les idées démocratiques, mais je ne me lie qu'avec des hommes bien élevés. « Quel galimatia me racontez-vous là ? » s'écria Barton. « Vous êtes démocrate, vous ? Avec votre redingote pincée et votre raie dans les cheveux, alors donc ? Voulez-vous voir un vrai démocrate ? Eh bien, regardez-moi, mon garçon. Je suis des Barton du Somerset, et nous sommes passés en Irlande du temps de la reine Bess. Depuis cette époque, oh, cela commence à dater, il ne s'est pas donné une taloge dans le Leinster que nous n'y ayons eu part, soit pour l'appliquer, soit pour la recevoir. Mon grand-père est allé s'établir à la Nouvelle-Écosse. Mon père s'est fixé au Canada. Et moi, je suis venu ici, dans cet îlot, que j'ai trouvé désert. Les Anglais n'ont pas le droit d'y mettre le pied, bien qu'ils en soient souverains. Et les Français qui pourraient y pêcher ne sont pas autorisés à s'y établir. Un de vos amiraux m'a dit l'année dernière, « Monsieur Barton, vous savez que je pourrais vous forcer à quitter la place ?»« Amiral, lui ai-je répondu, je le sais, mais comme vous n'y auriez aucun profit, vous ne le ferez pas. Si cependant vous exigez mon départ, j'embarque mes engins de pêche, mes meubles et mes planches, et je vais m'établir plus haut, en dehors du détroit, sur la côte du Labrador, et s'il le faut vers le Groenland. Car je ne connais ni roi, ni empereur, ni duc, ni président, ni magistrat. Je suis mon magistrat moi-même. Je paye ce que je dois, je prends ce qui m'appartient. Si l'on m'attaque, je me défends et j'ai les bras pour m'en servir. Voilà ce que j'appelle un vrai démocrate. » Charles ne put retenir une grimace ironique. « Ce que vous décrivez là, dit-il, c'est de la piraterie et du vagabondage, mais non pas de la démocratie d'après les principes. »« C'est de la démocratie américaine, mon garçon, et c'est la bonne. Vous voulez parler de principes ? Lucie, ma bonne fille, dites-lui quelques mots là-dessus, vous qui avez été élevée à l'école de Saint-Jean, et montrez-lui que nous savons nous servir de notre langue aussi bien que ces bavards européens. » Ah ! Voilà Patrice. Patrice entra. Il ressemblait à son père et un peu à sa sœur. Il posa son fusil dans un coin de la salle et, sans saluer personne ni souffler mot, il s'assit et commença à manger. La conversation continua. « Vous parliez d'amiral tout à l'heure, dit M. John d'une voix douce et qui avait quelque chose de musical. » Je vous annoncerai que pendant votre absence, Gregory a fait bénir son mariage et baptisé ses 4 enfants par l'aumônier de la frégate. J'en suis bien aise, répondit Barton. Gregory et sa femme sont de braves gens et des personnes tout à fait respectables et religieuses. Oui, mais avec 4 enfants en avance d'hoirie, fit observer le sarcastique Charles. Mais ils n'en sont pas moins bons chrétiens pour cela, répliqua Barton. Nous n'avons sur toute cette côte ni ville ni prêtre, et vous pensez bien que les jeunes gens ne s'en marient pas moins. À 20 ans, on s'aime et on s'épouse. Sur l'autel de la nature, dit spirituellement Cabert. Comme vous voudrez, mais on ne songe pas à mal. Quand un prêtre passe, oh, souvent après plusieurs années, on lui demande son secours, et cela ne nuit à personne. Charles ne répliqua pas. Le sérieux de Barton lui en imposait, la gravité de M. John le glaçait, la présence de Lucie le gênait pour le développement de sa pensée. Il n'en fut pas moins très frappé de ce qu'il venait d'entendre, et cela lui fit éclore un monde d'idées. Enfin, on cessa de tenir table, on entra dans le parloir, et Charles resta seul avec la jeune maîtresse de la maison. Il était manifeste que Barton n'y voyait dans son visiteur qu'un étranger, chasseur de caribous, dont il s'était chargé par obligeance et par ce goût fastueux d'hospitalité ordinaire à tous les hommes lorsqu'ils ont peu d'occasion de l'exercer. Mais l'impression produite par la vue du Français sur l'esprit de la jeune fille avait été dès l'abord d'une nature différente. Et pour être sincère, il faut avouer que, dans son âme et conscience, Lucie lui avait rendu pleine justice et l'avait trouvé charmant. Comme Cabert ne ressemblait en aucun point aux hommes qu'elle avait pu voir jusqu'alors, il représentait pour elle, à un degré suprême, cette apparition de l'inconnu, toujours si puissante sur les imaginations féminines. Il était de taille médiocre et elle ne connaissait que des géants. Sa figure un peu pâle, ses cheveux fins et rares, sa moustache à peine dessinée, ses favoris clairsemés donnaient à la jeune Irlandaise l'idée d'une délicatesse de nature qui lui sembla presque angélique, en même temps que l'accent un peu aigre de la voix, le plus souvent timbré par l'ironie, lui parut indiquer d'une manière certaine l'expression de pensée décidément supérieure. Ce qui était fort, étant constamment sous ses yeux, lui paraissait vulgaire. Une nature mince et débile devait être le comble de la distinction, et avec cette rapidité d'expression, de sentiment, de résolution qui envahit les êtres voués à la solitude et à la monotonie, elle décida que Charles Cabert était à n'en pas douter une créature d'élite, sinon venue du ciel, du moins parente de celle qui en était venue, et que le plus souverain bonheur qui pouvait échoir à une femme dans ce monde et dans l'autre devait être de se voir aimer d'un pareil héros de roman. Quand, dans les villes d'Europe, une jeune fille bien née est, par hasard, touchée d'une intuition de cette espèce, elle sait qu'elle n'a qu'une chose à faire, qu'elle n'a au monde qu'un devoir, et un devoir le plus impérieux de tous les devoirs, c'est de penser ce qu'elle peut, mais avant tout et surtout, et quelle que soit sa conviction, de n'en rien montrer. Sa considération, son honneur, son prestige est à ce prix. Tous les codes féminins dont elle a pu entendre parler sont précis sur cet article. Mais il n'en va pas de même dans le Nouveau Monde. Si une femme aime un homme, elle désire l'épouser. Si elle veut l'épouser, il faut qu'elle se charge directement de cette affaire, car c'est une affaire et la plus sérieuse et la plus positive qu'elle puisse jamais conduire. Elle se trouve exactement dans la position d'un jeune débutant dans la vie qui préfère la marine au commerce ou un régiment à un tribunal. Il faut qu'elle cherche à acquérir celui qu'elle a choisi, comme le candidat doit faire tous ses efforts pour gagner son épaulette ou tout autre insigne de la profession par laquelle il est séduit. Si Juliette aspire à Roméo, il faut qu'elle s'arrange de façon à réussir par elle-même et le plus vite possible. Le vieux Capulet n'interviendra que pour offrir sa bénédiction. Je dois le dire, Lucie ne perdit pas une minute. Elle ne pensait pas vouloir rien de déraisonnable ni de douteux. Elle aimait Charles. Elle prétendait l'épouser au plus vite et ne supposait pas que ce vœu impliquât rien dont son idole pût être offensée, car elle se savait digne d'être acquise, belle, courageuse, dévouée, tendre, fidèle comme l'or. Pourquoi hésiter? Si le jeune Français ne voulait pas d'elle, il le dirait, et tout serait fini. Il n'y a que les pédants qui prétendent que la logique est la même partout. Les idées sont des carrefours d'où descendent une grande quantité de routes fort divergentes. Charles s'aperçut d'abord des bonnes intentions de Lucie à son égard. Mais, partant de la même impression qui agissait sur la jeune fille, il suivit une voie tout autre. Il pensa que, dans un pays où on se mariait provisoirement, risque à rencontrer un prêtre et sa bénédiction qu'un nombre illimité d'années après l'union, il était tout à fait explicable que les jeunes demoiselles eussent du goût pour le premier venu. La fille de George Barton était une charmante personne et bien plus excusable dans le cas présent que toutes ses compagnes, attendu qu'elle était soumise à une tentation difficile à surmonter. Un Parisien orné de ses grâces, perfectionné par la vie élégante, connaissant à fond les passions, ayant le revenant bon de ses expériences, une pareille perle échouait sur les rives sauvages de la baie des îles, mais quelle merveille qu'une jolie main voulût se saisir d'un tel trésor. Le trésor se prêtait à être ramassé, mais non pas serré dans un écrin, mis sous clé, gardé à jamais. L'amour est l'amour, il dure, il ne dure pas, il flambe, il fume, il s'éteint, il se rallume. Que diable, on ne sait ce qu'il devient, il faut pas se lier. Non, mademoiselle, répondit Charles en souriant à une question que lui adressait Lucie d'un air ému. Non, non, je vous l'avoue. Non, je n'aime pas la poésie, en général, je ne lis jamais rien. Je suis essentiellement ce que vous appelez en Amérique un homme pratique. Je déteste les rêves et ne me plais qu'aux réalités. Je n'ai jamais lu ni Byron ni Lamartine. Oh, Musset m'ennuierait beaucoup si je le trouvais sur ma table. Je ne tolère qu'au théâtre, où l'on peut au moins, pendant la pièce, regarder dans les loges si les femmes sont jolies ou causer avec ses voisins. Laissons cela. Les idées de chacun n'ont pas besoin de messieurs qui accouplent des rimes pour dire des fadaises. Et comme mon cœur est possédé par un sentiment sincère, surtout alors je trouve ces niaiseries extrêmement rebutantes. Est-ce que vous aimiez quelqu'un? Demanda Lucie d'un air intéressé. Non, je ne suis pas parvenu jusqu'à 23 ans, répondit Charles sans avoir horriblement souffert. Oui, j'ai aimé, j'ai cessé d'aimer. Et sans doute le souvenir des tortures que j'ai éprouvées m'aurait détourné à jamais d'affronter de nouvelles épreuves si je le sentais en ce moment. Lucie rougit et eut une impression de joie céleste. Vous n'aurez pas été fidèle, dit-elle avec un sourire que la pauvre enfant voulut rendre malicieux. Tellement fidèle, tellement dévoué, que je ne suis ici auprès de vous que par ce motif. J'ai tout abandonné, famille, patrie, fortune, bien-être, pour fuir un souvenir déchirant. Mais vous avez raison. Hier, j'étais au désespoir. Et puisque vous voulez la vérité, aujourd'hui, je ne le suis plus. Les choses, comme on voit, allaient vite. Et la question se développait quand M. John entra. Il venait chercher Charles de la part de M. Barton pour lui faire visiter le jardin, les établissements de pêche et les cuves pour la fonte des huiles provenant de la dépouille des phoques. Oh, que le diable l'emporte, pensa Charles. À ce soir, dit-il à Lucie. À ce soir, lui répondit-elle. Et il y avait des deux côtés, dans ces simples mots, un monde de promesses différemment entendues. Quand Charles eut fait quelques pas avec M. John, celui-ci lui dit de cette voix douce et pénétrante qui lui était particulière: Monsieur, je n'ai pas l'honneur d'être de votre connaissance, Et vous auriez le droit de trouver mauvais mon intervention dans vos affaires. Mais mon âge me prête quelques prérogatives, et dans votre intérêt, je vous engage à ne pas vous croire ici dans un salon d'Europe. Je ne m'y crois pas non plus, monsieur, répliqua Charles, avec cet accent d'ironie qu'il maniait à la perfection. Il me faudrait une puissance d'illusion que je ne possède pas. Ah, mais c'est donc à merveille, repartit froidement monsieur John. Buvez, mangez, chassez, amusez-vous de ce qu'on vous offre, mais ne commettez pas de méprise. Vous n'en comprenez pas les conséquences. Bon, ce que je ne comprends pas, c'est votre discours. Voulez-vous que j'en demande l'explication à monsieur Barton ? Le maître d'école se mordit la lèvre. Charles pensa que c'était de crainte, et il en rit bien en lui-même, car il croyait deviner que le vieux bonhomme, malgré sa maigreur et son air éteint, avait sournoisement pris feu pour Lucie, et, comme le chien du jardinier, empêchait les autres de manger le dîner auquel il ne pouvait toucher lui-même. Pendant qu'il s'applaudissait de sa sagacité, de sa pénétration et de sa résolution, Barton s'approcha avec son fils Patrice. Il fit faire à Charles le tour de l'îlot, lui en détailla les curiosités, entre autres un carré de 15 pieds environ, où au moyen de quelque peu de terre à peu près végétale à portée de loin, on avait réussi à faire pousser une demi-douzaine de choux et des plants de rhubarbe. La visite générale achevée, on retourna se mettre à table pour attendre le dîner. Lucie allait et venait, mais à chaque instant, quelques pêcheurs, les femmes, les filles de ces messieurs, toutes avec des chapeaux à fleurs et des robes de soie, des coupes les plus extravagantes, entraient, s'asseyaient, causaient. Ces hommes étaient beaux, ces femmes étaient charmantes. Il y avait autant d'honnêteté et de courage dans la figure des premiers que de modestie et de candeur dans celle de leurs compagnes. C'était à merveille. Mais Charles s'impatientait de voir sa conversation avec Lucie souffrir tant de retardement. « Quand je leur dirai à Paris, pensait-il, ce qui m'arrive, c'est-à-dire en vérité que je suis comme le fameux César. Je suis venu, j'ai vu, ou plutôt, on m'a vu, et j'ai vaincu. Le tout non pas en un jour, mais en 12 heures, si je puis seulement parler encore un instant à cette charmante entraînée. Ma foi, ces anciens drôles ont Richelieu et Lauzun, je voudrais bien savoir ce qu'ils eussent fait de mieux. » Enfin, à force de manger pour attendre le dîner arriva. On se livra sérieusement aux occupations multipliées qu'il vint présenter, et comme M. John devait s'en retourner le soir à la Grande Terre, Barton et Patrice, qui n'avaient pas ouvert la bouche depuis le matin, et dont c'était si bien l'habitude que personne n'y prenait garde, se chargèrent de reconduire le maître d'école dans une embarcation. Charles, à sa joie extrême et presque avec émotion, bien qu'il eût tenu à l'honneur de n'en pas convenir, se trouva seul avec Lucie. Il jugea, en homme de guerre consommé, qu'il ne fallait pas là perdre son temps en manœuvre stratégique, mais bien tout enlever d'un coup de main. « Écoutez-moi, mademoiselle, lui dit-il d'un ton pénétré, les âmes comme les vôtres n'ont pas besoin de phrases et ne veulent pas d'hypocrisie. Vous et moi, nous sommes au-dessus de pareilles sottises. Oui, comme je vous l'ai dit ce matin, j'ai aimé. J'ai aimé une femme divine, parée de toutes les séductions que les arts et l'intelligence peuvent prêter à une créature humaine. Des circonstances, oh, sur lesquelles je ne pourrais m'apesantir sans que mon cœur se brisât, nous en séparés à jamais. Voulez-vous de cette âme souffrante que je dépose à vos pieds? Voulez-vous me faire oublier un passé que je maudis et m'ouvrir de cette main charmante un avenir plein de félicité et des aspirations les plus pures vers l'idéal? Ce n'était pas là absolument ce qu'il se figurait, mais la phraséologie moderne exige ces transpositions de sens. Malheureusement, Lucie n'était pas avertie, de sorte qu'elle répliqua fermement. Mais je vous aimerai si bien que vous ne regretterez personne, et si quelquefois je sens malgré moi combien je suis inférieur à cet objet sublime de votre ancienne affection, ce ne sera que pour éprouver plus de reconnaissance devant Dieu et de joie en moi-même de l'honneur que vous m'aurez fait. Oh, Lucie, s'écria Charles, mon destin est fixé à vos pieds. Pour jamais, répondit Lucie. En ce moment, Patrice entra et, s'asseyant dans un fauteuil, regarda fixement Charles Cabert, qui, malgré lui, sentit un léger frisson et fut tout près de perdre contenance. « Oh, que vous êtes revenu vite !» lui dit Lucie. « Vous n'êtes donc pas allé à la Grande Terre ?» Patrice leva les épaules et montra la fenêtre. Lucie s'aperçut alors qu'il y avait un coup de vent. Presque aussitôt, Barton parut avec M. John, et comme tout ce monde ne quitta plus le salon, il n'y eut plus d'entretien particulier possible. Seulement, la joie de Lucie était si évidente, elle prenait si peu soin de la cacher, elle avait pour Charles des attentions, des coquetteries et presque des tendresses si vives que celui-ci en éprouvait le plus cruel malaise et en lui-même se laissait aller à qualifier sévèrement une franchise de si mauvais goût. Il ne fut donc pas autrement fâché quand Barton, après avoir sommeillé toute la soirée, déclara en s'étirant avec un bâillement formidable qu'il était temps d'aller se coucher, et on lui obéit. Charles avait une nature trop fine et trop nerveuse pour s'endormir brusquement, comme les gens grossiers dont il était entouré. Il eût volontiers entonné un chant de triomphe s'il n'avait professé pour les manifestations bruyantes le plus juste mépris. L'îlot de Barton lui faisait aussi l'effet d'une île enchantée, et il se rappelait quelque chose qu'il avait lu dans la bibliothèque, des chemins de fer sur les enchevêtrements de Tahiti et des territoires adjacents. Il ne pouvait s'empêcher de rire en pensant à l'effet qu'il allait produire à son club quand il raconterait ses aventures par terre et par mer. Naguère, il avait compté modestement sur ses exploits contre les caribous, mais il en aurait bien d'autres à étaler. Réellement, il vit passer devant ses yeux tant d'images ravissantes que son imagination était toute illuminée dans les ténèbres de la nuit et, en dépit de lui-même, de cette nature correcte dont il faisait gloire, il faut le déclarer, il fut poète. Et tellement poète que, le matin à 6 heures, ne tenant plus dans son lit, il s'habilla pour aller sur les grèves mirer son bonheur dans celui de la nature qui partout et sous toutes les latitudes est heureuse. Il passait devant la porte du salon, quand cette porte s'ouvrit toute grande, et il se trouva en face de George Barton et de son fils. Les deux géants le regardèrent avec des yeux étincelants de joie et l'orgueil du bonheur peint sur leurs larges figures. « Donnez-moi votre main, mon brave garçon, donnez-la-moi, donnez-la à Patrice. Oh, je vous ai aimé tout de suite. J'ai deviné d'abord à Saint-Jean ce que vous valiez, et c'est le ciel qui m'a conduit au-devant de vous. Asseyez-vous là. Oh, que je suis bête, hein, vieux loup comme moi, à s'émouvoir à ce point. Mais pardonnez au pauvre Barton. Quand vous serez père vous-même, vous comprendrez ces sottises-là. » « Qu'est-ce qu'il veut dire ?» se demanda Charles. « Figurez-vous, continua Barton, qu'hier au soir, après votre départ, cette folle Lucie m'a embrassé en pleurant et m'a dit une quantité de choses auxquelles je commençais par ne rien comprendre. À la fin pourtant, elle a conclu et j'ai compris que vous étiez tous les deux engagés. » Charles rougit, se troubla, mais ne trouva pas un mot à articuler. Barton poursuivit. Eh bien, vous avez raison. Une meilleure fille, un plus grand cœur que Lucie, ne se rencontre pas dans l'univers, et je vous vois plus d'esprit dans votre pouce pour avoir deviné cela du premier moment que tous les philosophes des deux mondes n'en ont dans leur cervelle. C'est une bonne affaire pour vous, mais je sais que c'en est aussi une fort bonne pour elle. Le vieux Harrison me l'a confié. Votre père est riche et vous l'êtes vous-même. Alors voici ce que j'ai arrangé de mon côté avec Patrice. Je pense que cela vous conviendra, car nous sommes des Barton du Somerset, et je n'entends pas que Lucie se marie comme une mendiante. Nous partirons tous demain sur la goélette pour Saint-Jean. L'évêque lui-même vous mariera. Nous vous donnerons tout ce que nous avons dans la banque et nos actions sur le chemin de fer d'Halifax. Vous montrez une maison de commerce pour l'exploitation des huiles. Et que je sois pendu, mon garçon, si avant que votre fils ait défait sa première communion, nous l'ont fait entre nous la plus belle fortune de la colonie. En traçant ce tableau enchanteur, Barton s'exaltait, et Patrice, qui n'en parlait pas davantage, riait silencieusement, balançant la tête de l'air le plus approbateur. Charles, épouvanté au plus haut point, et sentant le danger sur lui, la gueule ouverte, lui soufflant au visage, comprit que, s'il ne voulait être dévoré, il n'avait juste que le temps de se mettre en défense. « Mais, mon cher monsieur Barton, s'écria-t-il, je ne vous comprends pas bien. Je crains qu'il y ait en tout ceci un grave malentendu, dont je serais désolé, croyez-le bien. » « Quel malentendu ? Ben, je veux dire un malentendu qui fait que nous ne nous entendrions pas. Vous n'êtes pas engagé à Lucie ? Je ne lui ai jamais dit. Qu'est-ce que vous ne lui avez pas dit ? Ben, je ne lui ai pas dit que je comptais. D'ailleurs, vous savez, dans tous les cas, il faudrait que je prévinsse mon père, et sans son aveu, je ne saurais réellement. Il y a des résolutions graves que... Oh, certainement, oui, j'ai pour mademoiselle Lucie une admiration, mais je croyais que l'usage de ces îles... Lucie ! Cria Barton. Lucie entra presque aussitôt. Fais-le s'expliquer, dit le père. Je comprends pas un mot à ce qu'il dit. Lucie regarda Charles avec de l'amour plein les yeux et une candeur absolue. Charles en conclut que c'était un monstre de calcul, de perfidie, de dissimulation, et il se jugea dans un piège. L'amour-propre irrité l'excita, et il dit brusquement à la jeune fille « Mais comment, mademoiselle, est-ce que j'ai prononcé le mot de mariage avec vous ? Est-ce que je vous ai dit que je voulais vous épouser ?» Lucie devint pâle et balbutia. « J'ai entendu que vous m'avez offert votre âme, et vous m'avez dit que votre destin était fixé à mes pieds, alors... »« L'avez-vous dit, en effet ?» interrompit Barton. Le géant avait prodigieusement rougi, et Patrice, qui s'était levé et s'approchait d'un pas lent, montrait aussi une physionomie peu avenante. Charles les regarda, il se trouva dans la position exacte d'un moineau entre 2000 ans. Pourtant, il se roidit, et en essayant de rire, il répliqua. « Mademoiselle, je vous demande bien pardon si vous y tenez, mais il me semble que, pour une phrase sans importance, vous m'attirez là une scène tout à fait singulière. »«
Ah ? » dit Lucie.
Elle mit la main sur son cœur et tomba sur une chaise, mais elle ne s'évanouit pas. Barton repoussa rudement Patrice, qui arrivait droit sur Charles, dans je ne sais quelle intention. « Monsieur Cabert, dit le pêcheur de phoque, vous avez voulu tromper une honnête fille. Cela ne se fait point dans nos pays, et je ne crois pas que la loi de Dieu le permette nulle part. Si maintenant moi, qui suis le père de Lucie, et Patrice, qui est son frère. Nous menions M. Charles Cabert, ici présent dans une barque, et que pieds et poings liés, avec deux pierres de 80 livres attachées au corps pour assurer son équilibre, Nous allions le jeter à une lieue au large. Qu'en penserait monsieur Charles Cabert ? Charles Cabert était assurément un garçon de courage, mais on ne saurait nier qu'il éprouva à ses paroles un sentiment désagréable. Il s'écria pourtant, bien que d'une voix un peu chevrotante, « Monsieur Barton, si vous agissiez de la sorte, vous savez que l'officier commandant la station navale française viendrait vous en demander compte ?»« Oh, vous voulez plaisanter, mon cher monsieur Cabert. Votre officier ne passera que dans un an, et je vous prie de me faire connaître par quel moyen il sera informé de votre triste sort. Vous êtes dans mes mains, monsieur. Vous êtes peu de choses, monsieur. Et si je ne vous écrase pas comme un ver, c'est que je vaux mieux que vous, monsieur. » La porte s'ouvrit et M. John entra. Ce fut pour Charles un tel surcroît d'humiliation et de chagrin, vu l'antipathie qu'il avait éprouvée d'abord pour le maître d'école, que peu s'en fallut que dans son désespoir il éclatât en bravade, surtout quand il entendit Barton exposer le cas au nouveau venu dans des termes crus et peu ménagés, et en prêtant à son malheureux hôte les intentions les moins droites. Je ne sais si réellement celui-ci les avait eues, mais celui-là était une raison pour désirer d'autant moins les voir étalés devant ses yeux. « Mon cher Barton, ma chère Lucie, » s'écria M. John en souriant. Et le rire avait une expression si singulière sur ses traits qui n'y semblait pas accoutumé, que cela seul commandait l'attention. Comment avez-vous pu sérieusement vous méprendre à l'amabilité toute française et toute bienveillante de cet excellent jeune homme, M. Cabert ? Comment avez-vous pu croire qu'il était capable d'une action aussi noire, aussi contraire au respect de l'hospitalité que celle que vous lui prêtez ? Mais, reprit Barton, ne vous ai-je pas dit ? « J'entends bien, mais là, vous êtes par trop sauvage, mon cher Barton. Et vous, Lucie, revenez donc à vous, mon enfant. » En parlant ainsi, il prit la main de la pauvre fille, la serra et la garda quelque temps dans les siennes, pendant qu'il fixait ses yeux sur les siens avec persistance. Il continua. « Si vous accusez de tant de crimes les gens qui disent à une femme « Je suis à vos pieds, je vous offre mon cœur et autres billevesées et pareilles », c'est que vous n'avez pas la plus légère teinte des façons de parler du grand monde. « Le diable les emporte !» cria Barton avec colère. « Voyons, mon enfant, » continua M. John en serrant de plus en plus la main de Lucie. « Rappelez-vous bien, qu'est-ce que M. Cabert vous a dit, en somme ?»« Pas grand-chose, » murmura la jeune fille d'une voix faible. « Et je crois, en effet, que je me suis trompée. » En prononçant ces derniers mots, les larmes lui vinrent avec tant de force qu'elle cacha son visage dans son mouchoir et sortit en sanglotant. Patrice alla d'abord vers la fenêtre, tambourina quelque peu sur les vitres, et quitta la chambre pour aller rejoindre sa sœur. Barton se promena de long en large, puis tout à coup marcha droit à Charles, et lui tendant la main. « Bon, monsieur Cabert, lui dit-il, je vous demande pardon. Cette petite fille s'est trompée, et m'a trompé moi-même. Voilà tout ce que je peux vous dire. Mais comme franchement, nous ne sommes pas faits aux belles manières, et que ma Lucie aurait de la peine à vous voir désormais. Vous m'obligeriez, si vous vouliez vous en aller, je ne vous le cache pas. » « Mais très volontiers, » répondit Charles. Il ne fit qu'un bond jusqu'à sa chambre, ferma sa malle, et sous la conduite de l'odieux M. John, qui lui était plus odieux que jamais, il gagna la grande terre où une goélette marchande le prit et l'amena à Halifax, d'où il regagna l'Europe. Il n'avait ni tué ni vu des caribous, mais il croyait avoir échappé aux amabilités et aux pièges des horribles pirates du Nouveau Monde, et il s'en félicita longtemps. Ce qu'il racontait, surtout de jugement sur Lucie, Monsieur John et le vieux Harrison. Oh, était à faire dresser les cheveux sur la tête.